Vacances. Le voici arrivé, le moment tant attendu.
Quand faut y aller, merde.
Il y avait du soleil, alors je suis descendu.
Il y a du soleil, il y a des nanas.
Cinérama.
Je vais vous tenir au courant des mesures qu'on va prendre.
À mon avis, il y aura des ouvertures.
Génial.
Je ne m'attarderai pas en vaine palabre, je serai bref et précis, je ferai feu à bout portant.
Tu pars pas en vacances?
Non, pourquoi?
Pas possible.
Nous dépendons énormément de la saison d'été, c'est vital.
C'est le seul point noir au tableau.
Je m'en fous.
Tout l'été, Cinérama, blind test et actualité du cinéma.
Ouais, jamais très original dans ces moments-là. T'sais.
This is Cinérama.
Bonjour et bienvenue dans la série estivale de Cinérama. Alors c'est toujours une émission d'une demi-heure, mais un peu moins obsédée par l'actualité. Quoique ce premier sommaire va un peu nous faire mentir en fait, puisqu'on va retrouver une interview de la réalisatrice tunisienne Kawther Benania, qui présentait en compétition au dernier festival de Cannes Les Filles d'Olpha, et film maintenant qui est sur les écrans, donc ce serait idiot de ne pas en parler vu qu'on a pu rencontrer la réalisatrice. Sinon pour cet été, ce qui nous attend, eh bien c'est une série, Guillaume, que tu vas présenter. Elle concerne les femmes compositrices de musique de films.
Mais oui, je pensais que ça serait une thématique intéressante parce que quand on parle de musique de film, on parle souvent de John Williams, de Jerry Goldsmith, de Basil Poledoris, ben tous ces grands noms, mais il y a aussi de grands noms féminins qui parfois ne sont même pas forcément connus, des gens qui même aiment la musique de film. Donc je pensais que c'était intéressant de faire un petit point dessus.
Et puis il faudra encore qu'elles aient par exemple des prix, hein, sachant que le dernier César attribué à un compositeur l'a été à une compositrice, mais c'était je crois la première fois que ça arrivait dans cette compétition.
Oui, mais on verra quelques petites oscarisées au fil de cet été.
Tu vas nous parler aussi d'actualité avec un film de Paul Schrader.
Oui, et son tout dernier, Master Gardener.
Quant à Marine, elle nous parlera de Tout le monde, Maple Mike. Mais nous allons commencer avec un oubli. La semaine dernière, j'ai oublié de vous parler du dernier film de Nanni Moretti qui était en compétition à Cannes. Portrait d'un double glorifiant, un cinéma du passé. C'est Vers un avenir radieux. Ainsi débute Cinérama.
J'ai quelque chose à dire.
Cinérama.
Et croyez-moi, ce ne sera pas long.
Azione.
J'ai tout fait pour produire ce film.
C'est le projet le plus important de ma vie.
Faisons court pour parler du dernier film de Nanni Moretti. Alors, s'il n'avait pas été à Cannes, je ne l'aurais pas vu. Alors, je n'ai pas tant d'attrait que ça pour le réalisateur et acteur italien. Et c'est même à reculons, hein, d'ailleurs, que je suis allé voir son long métrage Vers un avenir radieux. Alors, en lisant le pitch et en ayant le titre en tête, je me suis dit qu'il allait nous servir la soupe du « c'était mieux avant », sous-entendu le cinéma. Car c'est de ça dont il est question dans ce film qui convoque un double du cinéaste qui doit réaliser un film et qui en même temps doit faire face à sa femme qui veut le quitter. Et celle-ci est d'une certaine manière infidèle, hein, puisqu'elle produit le film d'un jeune réalisateur insupportable qui, ce sera démontré, n'y connaît rien au cinéma. D'ailleurs, le film qu'il entreprend de tourner concerne l'Italie en 1956 avec en arrière-fond eh bien, une décision à prendre pour deux personnages communistes, soit se placer du côté de l'insurrection populaire hongroise ou se ranger du côté des soviétiques. Une situation qu'à peine à comprendre un jeune membre de l'équipe ignorant tout de l'histoire de son pays. Avec ça, son producteur Mathieu Amalric n'a plus un sou et sa fille sort avec un diplomate septuagénaire. N'en jetez plus, ça va craquer. Et ça craque.
Questo è un film d'amore.
Notre rendez-vous est confirmé chez Netflix.
In questo film manca un momento what the fuck.
Pouf. What the fuck.
La partition que mène Moretti, il faut le dire, est assez exquise, passé tous ses points de vue sur la jeunesse et le cours des choses. Alors on sait qu'il a détesté la Palme d'Or donnée à Tarantino et à Ducournau hein, pour Titane, et dans une séquence mémorable, eh bien, il vient perturber un tournage de film ultra-violent pour questionner la violence et tout un pan du cinéma contemporain qui ne se questionne plus. Il convoque une mathématicienne, un historien de l'art et puis aussi tiens Scorsese s'il veut bien répondre au téléphone. Une manière de dire une fois de plus que ce n'est pas son monde et qu'il pourrait bien lui se retirer du cinéma. Le passage dans les bureaux de Netflix est d'une justesse et drôlerie qui excuse tous les petits travers qui ressortent de ce film. Alors il faut dire aussi que Moretti ne prend pas la posture du vieux con, hein. Il semble nous alerter comme en témoigne la toute fin du film sur un monde qui se déshumanise, car en questionnant dans la fiction le parti communiste, eh bien c'est d'utopie aussi que veut parler le réalisateur italien. C'eût été encore plus beau d'ailleurs ce final si Pina Bausch l'avait chorégraphié. Cela reste un film un peu sentencieux mais au final léger. Donc voilà, c'est Vers un avenir radieux de Nanni Moretti en salle depuis fin juin. Allez, on entame la série de cet été sur les femmes compositrices et nous commençons avec la britannique Anne Dudley.
J'ai des choses importantes à vous dire.
This is Cinerama.
Je vous adore. Vous êtes la joie de mon cœur.
Si vous avez été adolescent dans les années 80, vous n'avez pas pu passer à côté de ça.
Moi, j'ai vaguement reconnu, mais finalement, j'ai besoin de quelques éclaircissements.
Eh bien, c'est parce que tu es un ancien jeune, hein. Donc, si tu l'as reconnu, c'est parce que c'est le célèbre morceau Beatbox du groupe de New Wave londonien Art of Noise, et plus précisément sa Diversion One, parce qu'il y en a plusieurs. Seule femme du groupe, Anne Dudley, va y faire des étincelles. Elle se fait remarquer par ses compositions au piano, mais elle ne va pas s'arrêter qu'à la pop music. Alors, il faut dire que formée au très prestigieux King's College de Londres, elle a les épaules en tant que chef d'orchestre pour passer à la musique de film dès la fin des années 80. Alors elle ne chôme pas parce qu'elle travaille d'entrée avec des noms importants comme Cameron Crowe sur Un monde pour nous c'est l'un des plus grands teen movies des années 80 avec John Cusack. Elle travaille aussi pour Neil Jordan sur L'étrangère et The Crying Game, mais la véritable consécration viendra en 97 avec son score de The Full Monty de Peter Cataneo, qui en plus d'être le gros succès mondial que vous connaissez tous sur des chômeurs anglais devenus stripteaseurs, lui a permis d'obtenir l'Oscar de la meilleure musique de film. On peut écouter le main title. Elle enchaîne avec un autre score remarqué d'un tout autre ton, comme le film dont il est question, c'est l'éprouvant American History X de Tony Kaye, une sombre histoire de haine raciale aux États-Unis. Alors on écoute un morceau intitulé Benedictus. En 2001, elle a l'honneur de signer la partition du complètement frappadingue et complètement oublié Monkey Bone d'Henry Selick, le papa de l'étrange Noël de Monsieur Jack, qui voit Brendan Fraser, qui a eu un Oscar cette année, rappelez-vous pour The Whale, en dessinateur de comics underground, qui se retrouve confronté à sa créature, Monkey Bone, un singe farceur et obscène, lorsqu'il se retrouve coincé dans son inconscient entre la vie et la mort après un accident, et qui veut, bien sûr, lui, rejoindre le monde des vivants. Le travail de Dudley suit parfaitement bien cette folie ambiante. Dudley a continué les collaborations prestigieuses au cours de ces 20 dernières années. Alors on peut noter Stephen Fry, Kevin Reynolds, Paul Schrader, dont on parlera tout à l'heure d'ailleurs, puis deux autres collaborations avec Paul Verhoeven lors de sa période française. La première est Elle, le thriller domestique avec Isabelle Huppert, et le second est Benedetta, le film de non-lesbienne avec Virginie Efira, qui sera sa dernière composition en date pour le cinéma. On se quitte avec un morceau qui s'appelle False Prophet.
Nous parlions de Anne Dudley, c'est une femme compositrice, et c'est pas étonnant puisqu'on a donc entamé une série sur les femmes compositrices, une série qui va durer tout l'été dans Cinérama. Retour à l'actualité avec les filles d'Olpha de Kauter Benania.
Cinérama.
Oh non, ça suffit, de quoi s'agit-il, d'une blague?
Interview, chronique, blind test et tout le reste.
Merci.
La réalisatrice tunisienne Kauter Benania était présente à Cannes en compétition avec son dernier long métrage qui a pris une forme hybride entre le documentaire et le cinéma expérimental. Alors si c'était la septième femme à pouvoir prétendre à la Palme d'Or, il n'y avait que deux documentaires cette année. L'autre, c'était celui de Wang Bing. Les filles d'Olpha a plutôt séduit les festivaliers. Le titre pose deux questions. Qui est Olpha et qui sont ses filles? Eh oui, Olpha est une mère de famille tunisienne d'un peu plus de 40 ans qui a vu un jour ses deux filles aînées disparaître. Elle nous dit qu'elles sont parties avec le loup. Mais diable, de quel loup peut-il s'agir dans cette métaphore avec le petit chaperon rouge? C'est tout l'enjeu du film de Kauter Benania qui patiemment va dérouler l'histoire d'Olpha et de ses filles. Alors on verra surtout les deux qui restent. Les deux qui sont absentes seront jouées par des actrices. Car c'est ce qu'on apprend eh bien, au début du film. Kauter Benania, qu'on ne voit ni n'entend, a prévu de faire un film dans lequel ceux qui restent et peuvent s'exprimer côtoient des acteurs professionnels qui vont jouer les absents. Mais ce n'est pas tout, puisqu'Olpha elle-même, plutôt bavarde à l'écran, aura aussi un double en la personne de En Sabri, une actrice très appréciée en Tunisie. Ce dispositif mêle donc comédien et protagoniste de l'histoire qu'on veut nous raconter, et la réalisatrice se faufile dans le récit d'une vie, d'une éducation et d'une transmission. Le film raconte ça, la transmission, et éclaire l'histoire d'un déchirement dont je ne vais d'ailleurs rien dévoiler car le film commence par terre, ce qui a amené la réalisatrice à s'intéresser à Olpha, dont l'histoire a fait quand même grand bruit en Tunisie. Pour son dispositif, la réalisatrice tunisienne s'est installée dans un lieu neutre, un vieil hôtel de Tunis, et on n'en bougera pas. C'est donc un huis clos composé essentiellement de femmes auxquelles on est convié. Les rares hommes qui apparaissent dans la vie de ces femmes n'y restent pas longtemps, entre le mari absent et le compagnon dans un état second. Le dispositif tient toujours bon la route. On découvre une mère monstrueuse qui revit ses traumatismes et ceux qu'elle a infligés à ses filles, car après tout, c'est ainsi qu'elle a été éduquée. On voit aussi eh bien, des jeunes filles portées par la résilience, qui ont perdu des sœurs, mais qui n'en veulent pas à leur mère et qui, semble-t-il, vont briser cette transmission capable de nourrir le tragique. Alors, on a pu rencontrer Kauter Benania, qui nous parle donc de son film Les filles d'Olpha.
اللي فهمته من الفيلم اللي مش تكون يكون دوري كما دور روس في فيلم تيتانيك.
Moi ce projet je l'ai commencé en 2016. En 2016 quand il y a eu un peu la médiatisation de cette histoire d'Olpha et ses filles, elle était dans les médias, elle parlait de son histoire et moi ça m'a interpellé tout de suite, je voulais faire un documentaire et du coup je l'ai appelé. Je ne savais pas trop comment faire, mais je voulais faire sa connaissance, faire la connaissance de ses filles, comprendre son histoire, comprendre ce qui s'est passé réellement. Et au départ, j'étais partie sur un documentaire classique d'observation et je me suis dit, je vais filmer la mère et les deux cadettes chez elle en mettant en valeur l'absence des deux, les filles aînées. Et ça ne marchait pas, ça ne rendait pas la complexité de leur histoire, parce que j'ai tout de suite compris que c'est une histoire où beaucoup d'éléments interviennent, le social, le politique, le psychologique, donc c'est plusieurs niveaux. Et du coup, j'ai filmé un peu en 2016, je regardais la matière, ça marchait pas. En 2017, j'ai refilmé, j'ai tenté des choses, je me suis dit peut-être que les deux petites pourraient jouer leur sœur selon leurs souvenirs. Pareil, ça marchait pas très bien, c'était un peu... Et du coup, j'ai mis le projet de côté, j'allais l'abandonner à un certain moment, parce que je me dis, y a le cinéma parfois... ne peut pas, peut-être, je ne sais pas, j'étais en questionnement, rendre compte de la complexité du réel. Action. C'est un documentaire, c'est pas... Parce que même les comédiens sont là avec le... en affichant le... leur identité de comédien. On dit qu'ils jouent ils vont jouer ce personnage, mais ils réagissent en tant que... Justement, en tant que... Chaque comédien réagit en... Donc, c'est vraiment un documentaire dans ce sens. C'est une réalité, bien sûr, qui n'existe pas en dehors du film, fabriquée, mais... Oui. Et le principe de départ, c'était vraiment de... faire tomber les barrières, de convoquer un réel qui n'existe pas, de réfléchir sur ce réel, de poser des questions, d'être dans, voilà, dans ce huis clos à explorer le passé, à explorer sa signification. Cette manière de procéder m'a permis, en tout cas je l'espère, de rendre compte de la complexité de cette histoire, parce que c'est une histoire kaléidoscopique, donc pour toucher au moins à toutes ses facettes. Je ne pouvais pas le faire, comme je le disais au départ, avec un documentaire classique d'observation, avec que des archives, tout ça. Et donc, j'ai convoqué les outils du cinéma, justement, pour explorer cette histoire-là. Bah, les actrices, je pouvais leur souffler des choses, par exemple, choses que je ne fais pas avec les vrais personnages, parce que c'est leur vie, leur parole. Mais les actrices, je pourrais leur dire, mais quand elle te dit ça, demande-lui, par exemple. Et parfois, je n'ai même pas besoin de le faire. C'est elles qui réagissent directement. Donc. Les filles, elles sont très lucides, au fait, par rapport à leur histoire. Elles sont d'une maturité incroyable. Elles ont le mot exact juste pour décrire sans discours, sans... Voilà. Mais c'est surtout Olfa, au fait, qui a compris un certain nombre de choses. C'est pourquoi elle parle de malédiction à la fin. Elle parle de la chatte qui dévore ses enfants. C'est une forme de comprendre, réaliser ce qui s'est passé. Ça l'a beaucoup rapprochée, d'ailleurs, avec ses deux petites... Le film, l'expérience de tournage.
Dans le film, je vais essayer de parler de la fille d'Olfa.
C'était Kauter Benania pour Les filles d'Olfa, un film en salle depuis le 5 juillet. À 76 ans, le cinéaste américain Paul Schrader ne s'arrête pas, la preuve avec Master Garner.
Non mais bon, de toute façon, ce film est une catastrophe.
Vous voulez rire ?
Conneries, 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 je vous dis. Et même saloperie, hein.
Vous êtes beaucoup trop bavard.
Cinérama.
Le Nandina est un arbuste à fleurs originaire d'Extrême-Orient. À certaines périodes de l'année, ses feuilles dégagent une odeur qui font tourner la tête. Comme on a la tête qui tourne, juste avant d'appuyer sur la détente.
C'est dans les vieux pots hein, qu'on fait les meilleures confitures. Alors, hein, s'ils ont en règle générale tous une mamie, hein, les auteurs n'oublient en général pas leur vieux proverbe millénaire pour montrer que le travail d'un artiste, c'est d'établir, tisser, puis polir sur l'ensemble d'une carrière et d'une productivité plus ou moins longue les mêmes motifs. Alors, répétés jusqu'à plus soif, hein, ils prennent de l'ampleur et en disent énormément sur les obsessions de leurs géniteurs. Et ce n'est pas Paul Schrader hein, qui va nous faire dire le contraire avec Master Gardener, un nouveau pot pourri de tout ce qui occupe son esprit et sa plume depuis un demi-siècle d'écriture, mais aussi de réalisation. Alors, mais attention, hein, si on est en terrain très connu avec ce dernier film en date, on n'en est pas moins ravi de voir que le maître sait toujours manipuler son pinceau de façon inventive pour lui façonner des contours aussi inédits que complémentaires aux précédentes études livrées au public. Vous l'aurez compris, Master Gardener vaut donc le détour, et entre deux archéologues grabataires et des espions aux missions toujours plus impossibles, on se réjouit hein, de son exploitation. Bienvenue en salle.
J'ai une faveur à vous demander.
Je vous écoute.
Ma petite nièce. J'aimerais beaucoup que vous la preniez à vos côtés comme stagiaire. Elle a abandonné ses études et depuis, elle a de mauvaises fréquentations.
Tu apprendras à jardiner. Est-ce que tu es satisfaite de la vie que tu mènes en ce moment?
Pourquoi tu veux savoir ça? Tu racontes pas mal de conneries, mais il y a un truc dont tu parles jamais.
Ah ouais, de quoi?
De toi.
Ben, y a pas grand-chose à dire.
T'as tué 9 de ces gars.
C'était il y a bien longtemps.
Le master gardener du titre, c'est Narvel, un horticulteur mystérieux mais surdoué dans son domaine et entièrement dévoué à l'entretien des jardins de la très raffinée et hautaine Madame Haverhill. Alors, le calme olympien, la régularité métronomique et la vie quasi monastique de notre héros vont être mis à mal lorsque son employeuse l'oblige à prendre sa petite nièce Maya comme apprentie. Alors ce n'est pas tant l'adolescente qui pose problème mais plutôt son passé, son présent et les histoires qui vont avec, qui ne vont pas tarder à entacher une existence tout entière dévouée à la quiétude des plantes. Sauf que les fantômes du passé, Narvel connaît ça, ayant de monstrueux squelettes habilement dissimulés dans son placard, et son jardin secret va vite redevenir le champ de bataille qu'il a été il n'y a pas si longtemps que ça. Alors on le voit, Paul Schrader continue encore et toujours à explorer l'idée du mal qui ronge les hommes, simple créature devant composer avec la laideur du monde qui conditionne l'existence des marginaux et des malchanceux laissés pour compte, et souffle continuellement sur les braises de la tragédie antique avec ses personnages qui cherchent à sortir de leur étouffante condition, mais qui devront déchaîner les enfers pour éventuellement espérer entreapercevoir une bribe de lueur du soleil. Narwhal fait bien évidemment penser à Travis Bickle, l'anti-héros dérangé et violent de Taxi Driver que Schrader avait écrit pour Scorsese, mais aussi au damné que l'on avait pu croiser dans sa filmographie à lui, dont les récents First Reformed et Card Counter. D'ailleurs, la proximité avec ce dernier film est plus que frappante. On pourrait croire à s'y méprendre même que l'on assiste dès les premières minutes au début de The Card Counter. Joel Edgerton, assis à son bureau dans une pièce vide de tout ornement superflu, est en train d'écrire son journal, décrivant le déroulé de sa journée tout autant qu'il couche sur papier sa philosophie de l'existence qui nous délivre à la manière d'un sage revenu du front. Comme Oscar Isaac dans The Card Counter et bien d'autres héros schraderiens, c'est un solitaire qui mène une vie régie par des règles très strictes, qui n'a que peu d'attaches et qui se concentre tout entier à un art qu'il maîtrise à la perfection. Son passé est un fardeau qu'il va devoir gérer avec les imprévus du présent et l'éruption d'une figure féminine plus ou moins innocente va lui redonner quelques couleurs. Alors ce qui frappe avec Master Gardener, outre l'épure qui témoigne d'une maîtrise absolue de la part de son auteur, c'est que Schrader tend cette fois-ci vers un semblant d'optimisme réellement positif qui fait que la rédemption si convoitée par ses personnages s'incarne littéralement à l'écran le temps d'une séquence onirique aussi poétique que lumineuse. Alors peut-être que Schrader en a terminé avec la noirceur totale, même si le fond de l'histoire, tournant principalement autour de notions de tolérance, haine de l'autre et mépris de classe et des liens du sang, a toujours de quoi bien sûr nous faire frémir. L'importance accordée au regard de celle par qui peut venir la rédemption change la donne et évite la répétition, car on nous fait vivre ici ce qu'il en coûte aussi à l'autre d'avaler, de changer de regard pour ensuite arriver à pardonner et refaçonner le monde. C'est un parcours passionnant que nous offre Schrader, qui trouve en son contexte botanique une métaphore qui pourrait sembler tellement simple lorsqu'on y réfléchit deux secondes, mais tellement bien utilisée et riche de sens qu'elle est d'une évidence et d'une émotion implacable.
Le jardinage est une croyance en l'avenir. La croyance que les choses se dérouleront comme prévu. Qui t'a frappé?
Tu vas faire quoi?
Ta nouvelle vie commence, mon vieux. Je me suis construit cette vie. Je me suis fixé toutes ces règles. Je crois que l'heure est venue d'en transgresser une.
Toujours faire du neuf avec du vieux, c'est la marque des grands et c'est une convention à laquelle on n'échappe pas ici. Alors que l'approche de l'été rime avec énorme blockbuster plus ou moins dispensable et sortie technique sacrifiée, voilà après Il Buemo, un autre des indispensables films de cette année.
Master Gardener de Paul Schrader est en salle depuis le 5 juillet. Un couple qui navigue sur les flots embarque un certain Mike à Djibouti. Était-ce une bonne idée? Tout le monde m'appelle Mike. C'est Marine qui nous en parle.
Comment faites-vous pour choisir un film?
Cinérama.
Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Précisez.
Quand j'ai traversé l'Atlantique la première fois, j'ai embarqué sur un bateau, je connaissais personne. Et pourtant, c'est très bien passé.
C'est pas pareil.
Allez, d'ici, ok.
Tout le monde m'appelle Mike. C'est ainsi que se présente un jeune homme, chauffeur de taxi, avec qui Jean et Isabelle ont un accident un soir. Nous sommes à Djibouti. Jean est un Français et un marin aguerri. Isabelle, française elle aussi, est une jeune femme à qui il a récemment appris à naviguer. Et ils veulent prendre la mer ensemble pour aller jusqu'aux Seychelles. Leur but, Fuir le monde, montrer à leur enfant, Damien, autre chose que ce que la société traditionnelle en France peut apporter aux gens, voir plus grand, rêver différemment. Mike, lui, veut fuir Djibouti et la misère à tout prix et voit ce voyage comme un possible échappatoire. Jean est inquiet à l'idée de traverser le golfe d'Aden, c'est-à-dire l'espace maritime situé entre la Somalie et le Yémen qui relie la mer Rouge et la mer d'Arabie, car ce golfe est réputé dangereux et infesté de pirates, et il accepte d'emmener Mike avec eux pour qu'il les aide à naviguer. Mais lorsque l'équipage improvisé croise une embarcation de pirates, les véritables intentions ainsi que les personnalités des uns et des autres vont rapidement se révéler.
Il va, Mike !
Ils sont où ?
Cela fait quasiment 10 ans que Guillaume Bonnier, passionné de navigation, a commencé à écrire « Tout le monde m'appelle Mike » à son retour d'une transat Espagne-Guadeloupe et après une longue conversation avec la spécialiste de la piraterie pour la défense française. Il a l'idée et l'envie de faire ce film. Alors le thriller sur un bateau est-il un genre cinématographique à part entière ? Le couteau dans l'eau de Roman Polanski, Plein soleil de René Clément, plus récemment des films de genre tels Sea Fog, drame coréen sur l'immigration illégale ou encore The Boat. Rien de tel qu'un espace clos au milieu d'une étendue d'eau supposément mortelle pour bâtir un bon argument cinématographique. Dans Tout le monde m'appelle Mike, le sensationnalisme est en tout point rejeté pour laisser libre cours à l'âpreté du réel. Le bateau ici devient un refuge et en même temps le lieu de tous les dangers. Il est un moyen de fuir pour chacun des personnages, mais ils ne fuient pas tous la même réalité. Et entre le couple blanc qui ne veut pas revenir en France et Mike, le chauffeur de taxi qui ferait tout, lui, pour y aller, le bateau va devenir un lieu d'affrontement. Jean et Isabelle veulent fuir un monde capitaliste qui ne les intéresse pas, mais vont se retrouver confrontés violemment à la réalité de la piraterie, celle-là même qui a été créée, entre autres parce que l'Europe décharge des tonnes de déchets toxiques au large de la Somalie, ce qui empêche de pêcher et qui a conduit à une grande pauvreté et donc à une forme de criminalité. La liberté n'a pas le même prix et la même signification selon l'endroit où l'on est né, et c'est ce dont ce film parle en creux.
On va partir très loin pour essayer autre chose parce que c'est mieux pour le petit. Mais on ne serait pas là sans toi. Et on a une dette énorme envers toi.
Tout le monde m'appelle Mike est un film qui a d'entrée quelque chose de singulier et de captivant. L'utilisation de la pellicule, le cadre, la voix off et surtout le charisme animal de ses interprètes. D'un côté, Daphné Patakia et Pierre Lottin, sans oublier Thibaut Dirix qui interprète leur enfant. Et de l'autre, Abdi Sirisak Mohamed qui interprète le mystérieux Mike. Il est d'ailleurs vraiment intéressant de voir Daphné Patakia et Pierre Lottin évoluer au gré des films. On a découvert cette jeune actrice dans Les Cinq Diables, puis dans Benedetta de Verhoeven, où elle joue la nonne dont Virginie Efira tombe amoureuse. Et Pierre Lottin, lui, eh bien, a commencé dans la franchise des Tuches et par la suite a fait un beau parcours entre Grâce à Dieu de François Ozon, Notre-Dame brûle de Jean-Jacques Haneau et La nuit de 12 de Dominique Moll. Cette première réalisation de Guillaume Bonnier parvient à trouver son ton avec une grande sobriété, mais également avec un talent certain pour l'image et pour la mise en scène. Le réalisateur, pour son premier long, ne contourne pas la difficulté puisqu'il a tourné entre les Antilles et Djibouti. Et surtout, eh bien, toutes les scènes de bateau sont véritablement tournées en mer, que ce soit les scènes intérieures ou extérieures, avec une équipe réduite. Un tour de force donc pour un film dont l'apparente simplicité s'accompagne d'une belle réflexion sur la liberté.
Au revoir.
Au revoir.
Au revoir.
Ça s'impose.
Mais pour quelle raison ?
Qu'est-ce que vous racontez ? Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire ?
Je ne connais pas la réponse moi-même.
Comme vous êtes bizarre.
Oui !
C'est difficile de répondre.
C'est une plaisanterie !
On se retrouve la semaine prochaine avec bien la poursuite de cette série entamée sur les compositrices.
Oui, alors on reste en Angleterre, mais cette fois-ci, nous parlerons de Rachel Portman.
À la semaine prochaine pour ce cinérama spécial été.